It's 7:30.
Retroaktivität.
Bonjour.
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 On est très en retard. C'est une catastrophe. Bon, ça va bien ce matin? Allô? Ah oui, vous m'entendez pas forcément. Donc voilà, on est très en retard. On n'a même pas nos casques et tout ça, parce que la porte elle est fermée.
On va faire à la route ça.
C'est ça, comme, tu peux comme d'hab, mais en pire. Bien, il est donc 7h passées déjà, 7h36, je le fais à 36. Ce matin, dans Rétroactivitat, jusqu'à 9h sur Radio Campus Grenoble 90.8, un sommaire assez chargé, puisqu'il y a un débriefing déjà tout plein. Vous avez vu plein de choses cette semaine?
Je me suis limité à hier soir, moi.
D'accord. Pas eu de festival des movie films?
Si, un petit peu.
Ah,
un petit peu, puis des avant-premières au gros pâté.
Au gros pâté, j'avais jamais entendu ça.
Voilà.
Ça, c'est bon. Le disque du siècle dernier de la semaine, ça sera The Undisputed Truth, un groupe de funk soul de chez Tamla Motown, qui sortait un disque en 72. Le crépuscule du matin, qui est un peu joli. Qui envoie un petit peu quand même ce matin.
Avec de la mégère domestique.
C'est ça.
Exterminée.
On parlera ça tout ça à partir de 8h. Suivi du film que tu as vu.
Oui, alors là, film très 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 particulier que j'aime beaucoup pour d'exécrables raisons. La Nuit du Risque, réalisé par Sergio Gobbi en 1986.
Oula.
Et pour reprendre la terminologie de mes camarades et amis de Nanarland, en fait, on connaît les films de Blaxploitation, de Nunsploitation, de Naziploitation parfois. Et là, c'est un film de RPRploitation.
D'accord.
Voilà, j'expliquerai ça tout à l'heure.
RPR
comme le parti politique.
D'accord.
Exactement.
Très bien. Excellent. Suivi du Cholet Show qui
oui.
Continue dans le régressif après les
qui ose dans le régressif. Mais non, mais rien de fameux en fait, hein, ce début d'année pour l'instant. Alors il y a plein de choses qui devraient arriver qui devraient être géniales, mais pour l'instant pas terrible. Et du coup, je me suis laissé embrigader dans la brèche des rééditions. Voilà, parce que toi tu fonctionnes avec 40 ans de retard pour tes du siècle dernier, mais ils aiment bien rééditer les disques 20 ans après leur sortie, sous prétexte de remaster et de CD bonus.
Tout à fait.
Mais il y a plutôt bon.
Oui, oui.
Ça m'a fait plaisir.
Oui, on trouve quelques bons albums et 20 ans. J'ai commencé à faire liste des albums sortis en 92. Il y en a beaucoup plus qu'en 72, mais il y en a beaucoup moins des très bons quand même.
Ouais, ouais, ouais.
C'est moche. Mais non, j'ai pas encore fini, j'en suis au C ou au D par là.
D'accord.
Bien, ensuite la bibliothèque de Claire.
Oui.
Qui vient nous parler ce matin.
Alors ce matin, c'est un livre qui s'appelle Vous êtes né à la bonne époque, écrit par Matthew Young. Bon, c'était voilà ce que j'ai lu cette semaine, c'est pas exceptionnel, mais.
D'accord,
voilà.
Très bien. C'est bien vendu.
Oui.
Est-ce qu'il y a Tiffany qui vient ce matin?
Oui.
Oui, d'accord. Donc pour la chronique rétro ciné, on parlera un peu de vieux cinéma. Et puis on parlera aussi du film du CCC, qui est le film affreux, sale et méchant. Normalement, on devrait pas finir à l'heure avec tout ce qu'il y a. Donc je vous propose qu'on commence directement avec un peu de musique. Ça s'appelle Bombay Bicycles. Bicycle Club. Allez.
Oui, donc Bombay Bicycle Club, qui avait sorti un disque qui était assez fou il y a 2 ans, qui s'appelait I Had the Blues But I Shook Them Loose. Et donc là, ils viennent de sortir un nouvel album que ça aurait pu faire liste de la semaine, mais en fait non. Mais c'est un bon single, ça s'appelle Your Eyes.
D'accord. Bien. C'est parti.
Keep me here unaware. I would promise all.
Voilà, c'est donc Bombay Bicycle Club sur Radio Campus Grenoble 90.8. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, avec une voix qui me rappelait je vais vous dire, putain.
D'accord, un truc quoi.
Voilà, un truc.
Très bien.
Hein ?
Il y a beaucoup d'écho, on dirait, non c'est moi ?
Oui, il y a beaucoup d'écho, ça fait...
C'est d'accord. J'ai l'impression que t'es... On n'est pas dans les toilettes.
Parce que sinon... On t'entend pas.
C'est ça. Bah oui, c'est moche. Bien, bien, bien. Allez, débriefing de la semaine. Est-ce qu'on a le temps, avant de commencer le débriefing, de faire un point sur les primaires républicaines ?
Oula, si tu veux, oui. très, très rapidement, les dernières news, il y a eu deux challengers républicains qui ont abandonné.
Ouais.
John Huntsman, le deuxième mormon qui s'est rallié au premier, Mitt Romney.
D'accord.
Et Eric Perry, qu'on décrivait au début de la campagne comme un George Bush sous stéroïdes, et qui à la fin de la campagne n'était plus décrit du tout, et qui là vient de se rallier à Newt Gingrich, qui est une espèce de favori tous les 2-3 jours quand quelqu'un essaie de s'intéresser à la campagne. Et ce qui est très 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 drôle en ce moment, c'est que, en fait, notamment, pour dire à quel point les électeurs républicains n'aiment pas leur candidat, un des derniers caucus, en fait, je crois que c'était en Caroline du Sud, Stephen Colbert, qui est un humoriste, comme Jon Stewart, en fait, ils font des émissions de où ils se moquent de l'actu, en gros, des émissions comiques, mais avec quand même des points de vue assez forts sur l'actualité. Bah, Stephen Colbert était crédité de plus d'intentions de vote que deux des candidats républicains, alors qu'il n'était même pas déclaré. Du coup, Stephen Colbert a décidé de se présenter, mais c'était trop tard pour déposer sa candidature. Donc en fait, il soutient le candidat qui s'est retiré, que j'aimais beaucoup, là, Herman Cain, qui a cité Pokémon, le film, pour son discours d'adieu. Et donc voilà.
D'accord, donc là il y a 2-1 en fait pour Romé face à
c'est Romney qui mène toujours et qui va vraisemblablement l'emporter parce que Newt Gingrich de toute façon est complètement cramé par rapport à ces histoires de mœurs qui sont sorties au début de la campagne, et Ron Paul est beaucoup trop libertaire pour pouvoir passer dans l'électorat républicain. Voilà.
Très bien. Merci pour ce flash info en direct de Washington.
C'était Club sur NCIA, le groupe auquel. Mais le nom était un peu long, du coup ça faisait du mal.
Ils sont pas si trop bien voilà. Dedans, les mots.
Une fulgurance.
Très bien. Bon, le festival des mots du film, qui c'est qui y allait? Personne.
Un petit peu, je suis allé aux séances de 18h. Personne n'est au courant qu'il y a des séances de 18h cette année, donc il n'y avait personne. Mais il y a genre une vingtaine de personnes, ce qui fait assez vide dans la salle Juliette Berthaud. Mais qu'on se rassure, les séances de 20h et de 22h sont très très fréquentées. Donc j'ai vu le programme de court-métrage qui était moins bien que celui de l'an dernier, avec quand même toujours ce souci de montrer de la production de films, mais pas forcément avec un côté amateur. Sur certains films, c'est plus patent que d'autres. Sur les films québécois qui étaient retenus, parce qu'il y a un lien avec le festival Fantasia qui se fait, c'était pas forcément très convaincant, mais il y avait quelques bonnes surprises, notamment un film qui se passe plus ou moins dans un environnement tchernobylesque, avec une famille complètement dégénérée. Voilà, c'est entre Massacre à la tronçonneuse et Tchernobyl. Ça, c'était vraiment, vraiment pas mal, avec de belles idées de mise en scène. Et hier, il y avait l'équipe de la société de distribution et de production maintenant, Le Chat qui fume, qui venait d'arriver, ouais. Et qui présentait en fait deux productions maison, Die Die My Darling, qu'on peut voir sur le... Oui.
Comme la chanson des Misfits.
Et le deuxième, Lascarez, qui fait que des films qui ont des titres de chansons des Misfits, effectivement, oui, tout à fait. Et voilà, c'est du cinéma très 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 référencé, produit dans des conditions amateurs, mais avec un rendu esthétique qui est bluffant. Il y a notamment un travail sur la lumière, sur les angles, sur les mouvements de caméra qui est vraiment très intéressant. Mais après, c'est du cinéma très 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 référencé, comme je disais, Giallo, Mario Bava, Lumière criarde, meurtre graphique, jeune fille dévêtue de façon totalement gratuite, voilà. Mais c'était plutôt intéressant, et ce soir il y a une programmation érotique, érotisante, que je vous conseille particulièrement, Le Moulin des Supplices, un nanar italien qui n'a pas forcément super bien vieilli, La Bête Aveugle, chef-d'œuvre surréaliste japonais complètement baroque, et Le Retour de Flesh Gordon.
Ah oui.
J'ai bien Flesh, voilà.
On en avait parlé un petit peu la semaine dernière.
Tout à fait.
Très bien, Festival des Modifiés qui continue jusqu'à demain.
Si
je dis pas de bêtises. Le concert d'hier soir.
Les concerts d'hier soir. Claire, on y était. Oui, on était en équipe.
Oh, bravo.
Hier soir.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau?
Donc,
c'était quoi?
Une soirée Grand Ouest, puisqu'il y avait donc Mindzone Williams, qui n'est pas allemand mais qui est rennais, et les Normands de Gablé, qui nous l'ont répété en long, large, en travers, qu'ils étaient Normands d'ailleurs, Gablé. voilà, et que c'était la première fois qu'ils étaient à Grenoble et qu'ils étaient contents. Alors Mindzone Williams, on a pu le découvrir sur la scène pour les non-rennais, pour la scène des transmusicales, mais c'était beaucoup trop tard pour nous, du coup on avait renoncé, voilà, parce qu'on est trop vieux. et Gablé, ben, eux aussi, ils ont fait Transmusical il y a plusieurs années. Ils en sont quand même à leur 5e album, mais ils ont une grosse, grosse reconnaissance critique et énormément de succès dans leur tournée. J'étais un peu surprise qu'ils n'avaient pas rempli vraiment la salle de la Bobine que ça n'avait pas trouvé son public hier soir. Pour les deux concerts, moi, je trouvais que la soirée était très bien construite puisque, bon, c'était quelque chose de plus émergent en première partie, mais vraiment deux concerts qui étaient sous le signe du bricolage. Alors, d'un bricolage qui était plus avec un bricolage fait de deux grands décalages, puisque Mindzone Williams, il oscille vraiment entre des boucles électro et une guitare folk, avec des chansons, des paroles qui rapprochent beaucoup de l'antifolk. Et comme beaucoup de ses compères d'antifolk, qu'il adore se déguiser, il avait une espèce de tête d'ours sur la tête pendant tout le concert, un peu comme Herman Dune le faisait son temps, dans ses vidéoclips, je sais pas si vous vous souvenez. Et Gablé, là on est vraiment dans une esthétique punk do it yourself, avec quelque chose juste de bricolé de A à Z, avec une énergie mais vraiment incroyable, des gens qui sourient d'un bout à l'autre du concert. Ils ont enchaîné, ils faisaient les concerts 15 jours avant et 15 jours après, et ils étaient extrêmement présents, extrêmement contents, avec des cagettes, des pots de confiture, des flûtes. Des flûtes à bec verte transparente fluo, trop belle. Et des gens qui te laissent... C'est marrant, c'est très intéressant, je trouve, dans ces concerts-là, de voir la façon dont sont construits les morceaux et de voir la façon dont ils composent, dont ils évoluent, dont ils imaginent. C'est vraiment... tout est possible et c'est une sorte de grand jeu, quoi, un concert de Gablé. C'est très bien.
D'accord.
Non, je suis d'accord, quoi. Gablé, c'était vraiment dynamisant et tout, avec une vraie ambiance. Et moi, j'en suis sortie fatiguée. Voilà. Ils m'ont épuisée.
Donc, plein d'énergie. Très bien.
Bon, bah. Voilà, donc si jamais vous, c'est vraiment un groupe à découvrir sur scène, ouais, c'est ce qu'on s'est dit en sortant.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Donc s'ils recroisent votre chemin, n'hésitez pas à foncer. Et puis il n'y a pas besoin de... Enfin, autant il y a des groupes des fois qui sont un peu difficiles d'accès, mais là, c'est ils jouent tout justement sur la carte de l'accessibilité, quoi. Mmh. N'importe qui est entraîné dans leur truc. Mais il paraît, ils ont... Alors il y a toujours un petit historique qui présente les groupes, et là, ils se vendent en disant que c'est l'histoire de deux batteurs qui ont fait de la guitare et d'une claviériste qui a appris à jouer en mettant des touches, des gommettes sur les touches de clavier. D'accord. Voilà. Mais donc vraiment un truc fait maison, quoi.
Très bien.
Très bien. On va en écouter un truc, vu qu'on est super en retard.
Ouais, c'est ça. Allez, avançons. Donc c'est Gablé.
Donc c'est Bunch, je crois, le titre. Le single, c'était le titre qui est toujours disponible gratuitement sur leur site, extrait de leur dernier album, qui s'appelle Cute Horse Cut.
Vous êtes bien dans Rétroactivité jusqu'à 9h, il est 7h55.
Every step is planned and this is how I'm hoping things are mostly likely to take place.
Some biscuits, baby shite, indicate your height.
Out of the box will come the screws that seal your coffin. They're fragile and they'll break for nothing.
Buried in a hole, just wait a minute, wish I'd let you when everything is
quite easy and obvious, you're bound to die. You're simply going in and coming out. Make me rich, help me choose. Hand me out a longer paddle, I won't go without the saddle. Have a walk in the town, have a talk, wear a crown. Hang that hand above the cradle, bunch of twankers are this label. Get the keys on the door, feed the bees on the floor.
Thank you.
Allons.
Hey.
Allons.
Oui. Oh. Ça met en forme, hein.
C'est ça. Oui, c'est très très bien. Il y a le boulanger qui passe en plein milieu pour annoncer qu'il a des baguettes toutes chaudes à vendre. Ils sont klaxon. Non, c'était pas ça.
Tu dis ça parce que t'as faim.
Oui. Non, je sais pas. Ouais, un peu. Allez. Il est quelle heure? Il est 7h57, 3 minutes pour faire une chronique, ça c'est bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ce matin, l'album du siècle, le disque du siècle, dernier de la semaine, n'est autre que un disque de Tamla Motown, il s'appelle Undisputed Truth, Face to Face with the Truth, face à face avec la vérité. Ce groupe... oui, c'est mal quand on traduit.
C'est le problème.
Ça tombe un peu à plat. Il sortit donc en janvier 1972. Est un groupe qui est un peu dans la mouvance de ce qui se faisait à Motown à l'époque, plutôt les années 60, on va dire, pour schématiser, que c'était plutôt des types de bubblegum pop, des types plutôt joyeux, très pop, très soul et pop aussi, quoi, avec des mélodies qui sont très accrocheuses, mais des paroles un petit peu ineptes ou gentillettes, un peu pas cucu, mais quasiment. Et puis arrive 1971, qu'on en a parlé un petit peu l'an dernier, avec les albums de Stevie Wonder, Where I'm Come From, et l'album de Marvin Gaye, What's Going On, qui apporte deux choses en fait, qui apporte une musique un petit peu plus sensuelle, un peu plus suave on va dire, et aussi des paroles un peu plus politiques. Et donc ce groupe de Undisputed Truth se situe plutôt dans cette mouvance là. C'est produit par un producteur qui s'appelle Norbert Whisfield, un truc comme ça, j'ai plus le nom en tête, mais qui est, de toute façon en fait à Motown les stars sont pas forcément les artistes, c'est plutôt les producteurs qui choisissent en fait des artistes et qui leur donnent des choses. Alors Norbert machin là, c'est lui qui a remis qui a relancé le groupe Les Temptations, qui avait beaucoup de succès à Motown, puis à la fin des années 60 ça se passe un peu moins bien. Et il insère en fait dans ce groupe de la musique psychédélique. Donc ça devient de la soul psychédélique et ça relance complètement le groupe. Donc il prend sous son aile en fait le groupe Undisputed Truths, qui lui servira quasiment de laboratoire d'expérimentation. Et donc il leur fait faire plein de choses. Donc c'est un peu à mi-chemin entre j'ai un chemin mais j'ai pas l'autre, entre Sly and the Family Stone en fait, pour le côté funk et puis un petit peu un côté suave. Donc ce groupe évoluera ensuite par la suite après l'album vers la disco, mais là on est vraiment dans de la funk. En gros le Undisputed Truth est un petit peu la réponse faite à Funkadelic, c'est-à-dire c'est le Funkadelic maison de Motown, puisque il y avait une demande là-dessus, donc ils ont fait un groupe là-dessus, hein, tout simplement, donc produit par ce producteur. C'est leur deuxième album. Ils ont eu un premier album avec un gros succès, c'était leur seul succès qui a fini troisième aux États-Unis. Après ça sera des succès très confidentiels. Et le single de l'album précédent était un pamphlet contre Nixon en fait. Donc voilà, un petit peu comme ça se faisait à l'époque. C'était
de bon goût.
C'est ça. C'était comme ça. Donc là, le titre que nous allons écouter maintenant est celui qui ouvre l'album, que j'ai perdu le nom, mais c'est pas très grave, on va le retrouver rapidement. Je vous entends. Vu au piqué. Bref, le titre, c'est le premier de l'album, s'appelle You Make Your Own Heaven and Hell Right Here on Earth. Donc voilà, Undisputed Truth, produit, j'ai le vrai nom, par Norman Whisfield. Allez, pouf pouf, on écoute ça, puis après on passera au crépuscule du matin. Sur l'album, c'était l'album Face to Face with the Truth, un peu de soul, un peu de funk.
This world, oh baby, your mind is clear as the air.
Time passes,
you learn to walk and talk.
Time passes,
you learn right from wrong. Seeking a life of your own. Hey, I'm telling you the natural facts of what it's worth. You
what you find it takes a lot of hard work and sacrifice. Satisfy your personal wants. Will you do wrong or will you do right?
One thing you must admit, and you know it's true, true.
The final decision is up to you.
Can you feel it?
Undisputed Truth sur l'album Face to Face with the Truth, sorti en janvier 72, soit il y a quelques 40 ans. Enfin, le titre, il est trop long, je vous le dirai pas. Bref, il est 8h08, pouf, c'est l'heure du...
C'est qui qui est mort?
Voilà, pouf pouf, le crépuscule du matin, la rubrique nécrologique de Radio Campus Grenoble 90.8 dans Rétroactivitat. Ce matin, est-ce qu'on commence avec le... Avec quoi on commence? Avec le Breaking News?
Ah, ou... Breaking News, allez.
Allez, Breaking News, parce que quand même...
Alors hier, on a pleuré la mort à chaudes larmes du site Mega Upload, alors ouais. Site d'uploading en ligne, fameux, réputé, par lequel transite un nombre invraisemblable de téléchargements, pas toujours légaux au niveau des copyrights, effectivement. Cela est dû en fait au passage en force d'une loi au Congrès américain, la loi SOPA, Stop Online, je sais plus ce que c'est le reste, mais c'est en gros un truc anti-piratage. Et la loi SOPA, en fait, la première mesure qui a été prise, d'une radicalité... et d'une rapidité d'exécution qui a laissé tout le monde pantois, bah, ça a été de fermer, de rendre inaccessible le site Mega Upload, de désactiver l'adresse du site. Et les responsables ont été traduits devant la justice. Voilà.
Bon, exécuté cette nuit. Hein, exécuté cette nuit d'ailleurs.
Exécuté.
Oh et court.
Voilà, pissé dessus par les gardes de Guantanamo, enfin bon, un truc horrible. Et en fait, ce matin, là, à l'instant, je viens de voir que Mega Upload, en fait, est déjà de retour. Voilà.
Il y a des milliards de petits génies qui ont dû, en plus...
Ouais, mais voilà, c'est ça le problème du net, c'est que si tu veux, dès que tu essayes de réguler, en fait, t'as toujours des gens beaucoup plus forts.
Ouais.
Qui arrivent derrière et qui font tout ce qu'ils veulent, voilà. Et donc là, il y a déjà... Alors, il n'y a pas de nom de domaine pour l'instant, juste une adresse IP. On va peut-être pas la donner à l'antenne non plus.
Non, mais... FBI en bas commence à arriver déjà. Mais,
voilà. Bonjour. C'est bon. Et voilà.
Parce que là, on parle, ouais, quand tu regardes un peu sur Internet, genre tu tapes Mega Upload dans Google Actualité.
Ouais.
Tu tombes, ouais, le gouvernement ferme Mega Upload. 15 minutes plus tard, Anonymous ferme des sites du gouvernement et de labels musicaux. A ironisé un membre d'Anonymous sur le site Twitter.
Voilà.
Donc je pense qu'ils ont dû, ouais, il y en a qui ont dû s'activer sérieux.
Mais c'était une mesure symbolique parce que Mega Upload avait certes fermé, mais il y avait toujours FileSurf, FileSonic, Upload,
ouais, y en a plein d'autres.
Mediafire, j'en passe, et des meilleurs, bien sûr.
Mm-hmm. Tout à fait. Donc il y a plus... Oui, c'est pour ça qu'il y avait une page noire sur Wikipédia, en fait, américain.
C'était pour... Ouais, voilà, contre la loi SOPA, effectivement.
D'accord. Oui, ça a été voté, donc je pense.
Ah ouais, direct.
Très bien. Bon, partons sur des choses un peu plus légères, sinon...
La mort de Maggie, par exemple.
Ouais, la mort de Rosy Bar.
Alors, je suis désolé. La batterie.
Elle boit tout en rouge.
J'ai eu des années à comprendre qu'il disait avec elle ça bouge. Je comprenais avec ses seins rouges. Ouais, voilà, j'ai dit jeune.
Voilà. Non, écoutez, le générique hier soir, on l'avait dans la tête toute la soirée, c'était horrible.
Ah,
bah,
ouais. Ah, Georges Boissier, Maxi Discount.
C'est ça. Je vois que t'es au top.
Il y en a plein, ouais. Je pense que. Peut-être vous aussi, c'était...
Donc c'est...
Tu prends ton bain, tu bouffes et après tu vas te coucher le dimanche soir et tu regardes Maggie.
En fait, ce jour était marqué d'une pierre noire comme le 20 avril 1992 et la disparition de Benny Hill. 20 ans après, on nous enlève Rosy Bart.
Rentre ici, Rosy Bart, avec ton cortège.
C'est voilà. Ça, le dimanche soir, c'était Maggie, Benny Hill, Téléchat, ouais. Yo Dodo. Ouais. pour les anciens.
Et ça donne une génération perdue.
C'est ça. Vous voulez un extrait de Maggie ou...
Vas-y, balance.
Pour voir à quel point c'était pas bien.
Ah si.
Bonjour maman, ça va?
Très bien.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Oh, presque rien. Il pleut, tu tâches le parquet, il est 1h du matin, et Georges n'est pas rentré.
Ah, c'est que ça?
Que ça.
Putain, Georges.
Il m'avait dit à 11h. Ouais. Je suis là.
Comme
il est 1h du matin, il est pas là. Écoute, Georges a été retenu par son inventaire, c'est pas la première fois.
Pas un jour d'anniversaire.
L'anniversaire de votre mariage?
Non. De notre premier rendez-vous. Et ça, c'est la première fois qu'il le rate en 7 ans.
Regarde, j'avais tout prévu. Soufflé intime aux chandelles, musique douce, champagne. Et puis ensuite, youpi.
Oh, maman. Quoi, maman? Je suis bientôt majeure.
Regarde. Ben quoi, c'est une tarte?
Maintenant, c'est une tarte. Il y a 2 heures, c'était un soufflé.
Allô, Georges. Quoi? Une autre demi-heure? Non, 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 Georges, je ne veux rien savoir. La barbe avec ton inventaire. Tu finiras à la maison. Oui, oui. Et j'ai à te montrer certaines petites choses dont tu n'as plus fait l'inventaire depuis trop longtemps.
Voilà. Maggie.
Ça me fait penser à une phrase dans Monstre Invisible de Chuck Palahniuk, où il fait remarquer à très juste titre que la plupart des rires enregistrés ont été enregistrés plusieurs décennies en arrière. Oui. Donc la plupart des gens qu'on entend rire dans les sitcoms de ces années-là sont déjà morts.
Ah oui.
Voilà.
C'est vrai.
Et c'est, voilà. Bah, Maggie, ouais.
C'était vraiment l'incarnation de la mégère, mais de plus de 50 ans, parce qu'en plus elle était âgée à l'époque.
Voilà,
déjà,
mais entre ouais. les lignes, c'était vraiment un pamphlet sur un homme qui s'émancipe dans le libéralisme le plus exacerbé pour compenser son mariage avec une femme castratrice. Ouais.
Oui, vu comme ça, ça fait la presque intelligent.
Et ouais. elle avait eu mais... le 7 d'or de la meilleure comédienne, et ça.
C'est pas rien.
Et ça, c'était quand même.
Oh, mais elle était plutôt bonne comédienne.
Faut rendre son 7 d'or.
Prends ça, Al Pacino.
Mais oui, mais elle était. Parce qu'en fait, elle était née en 27, donc ça a commencé en 87.
Ah ouais, ouais,
donc
mais
elle était déjà super âgée en fait.
C'était une grande actrice de théâtre, Rosie Bart. Ouais. Voilà, enfin, elle a joué avec Jean Vilar. Enfin, c'est. Voilà, à partir du moment où tu dis que t'as joué avec Jean Vilar, de toute façon, ça cible un petit peu le ton. Mais voilà, c'était une grande actrice classique et qui n'est connue que pour Maggie. Voilà.
Ils sont dans le viager aussi.
Ah, le viager, ouais. exact.
Ah, mais oui,
j'ai pas trouvé d'extrait.
Un film qui passait tous les étés et c'est qui était pas mal d'ailleurs.
Avec Céron
de Pierre Tchernia, si je ne m'abuse d'ailleurs. Ouais.
Je pensais que vous passiez un extrait, mais j'avais pas trouvé. Mais je me suis dit que.
C'était très. Moi, j'aimais beaucoup.
C'était très drôle, le viager.
Je pensais que vous passiez un extrait, mais je pensais.
Il mangeait du boudin blanc, je me souviens, tous les Noël.
En 34, c'était oh, du boudin blanc. Et puis ouais. en 43, oh, un boudin blanc. Voilà. J'ai regardé des petits bouts hier soir. Non, je pensais que vous passiez un extrait, mais j'ai pas trouvé de drôle avec Rosie Vart. Et je me suis dit qu'on pourrait remettre ça avec Pierre Tchernia et Michel Galabru.
Ça va pas tarder. Oh.
Ah oui, Michel Galabru, mais
il est hors d'âge. Mais il est toujours en activité.
Mais il va bien, il est toujours vaillant. Là, il va jouer la femme du boulanger au théâtre. Non, il va bien, Michel Galabru. Mm-hmm.
C'est comme Piccoli, tu sais pas.
Ouais.
Piccoli est plus atteint quand même. Mm.
Bah, il a fait le pape, quoi. Mm? Il a fait le pape.
Il a fait le pape, ouais.
L'an dernier à Cannes. Bref.
Oui. C'était Jean-Marc Thibault qui était joué avec Rosie Vart.
Bien sûr.
C'est ça oui. Parce que là, il y a des photos sur gala.fr de Jean-Marc Thibault aux obsèques de Rosie Vart. Et putain, mais lui aussi, il est hors d'âge. Hein.
Ah oui, déjà avec Roger Pierre, quand, pour les obsèques de Roger Pierre, il était pas en forme. Ah, là, il commence à. Bref.
Là, Jean-Marc Thibault, je sais plus ce qu'il fait.
C'est pas ce qu'il
fait. Je crois que la dernière fois que j'ai vu au cinéma, c'était dans ce truc absolument invraisemblable qui s'appelait Féroce, avec Samy la série.
Ah oui.
Et où Jean-Marc Thibault jouait une espèce de Jean-Marie Le Pen, en fait.
D'accord. Ouais.
Et il le faisait pas mal. Le film était lamentable, mais Jean-Marc Thibault était très bien.
Bon.
Rétablissons un peu de vérité historique.
Bon, troisième disparu de la semaine.
Voleur, rendez-moi ma couleur.
Et ça, c'est pas du vol de couleur, peut-être. Kodakolor Gold, le voleur de couleurs.
Kodak.
C'est mort.
Ils sont en faillite, là, ils sont déclarés en faillite.
Oui, mais j'avais lu la semaine dernière les milliards de pertes qu'ils faisaient, c'était ouais. juste...
Donc oui, ils vendent plus rien. Hein.
Ils ont définitivement perdu leur couleur.
Ouais. C'est ça. Un autre petit bout de pub.
Courez chez votre photographe avec votre vieil appareil photo, même hors d'usage. Peu importe la marque, il vous fera 15 à 60 francs de réduction sur tous les appareils Kodak Extra.
Bon, la promotion est finie. Voilà. Donc Kodak, c'est assez incroyable quand même comme histoire parce que je sais plus ce que je veux. Donc ils sont en faillite. L'appareil numérique a pris tout le marché, donc ils vendent plus que de la pellicule à Cholette, quoi, en fait, en gros. mais voilà. Et donc ce qui est vraiment incroyable, c'est que donc ils se font bouffer par le numérique, mais c'est quand même eux qui ont inventé l'appareil numérique au départ. Et il y a eu des mecs qui ont dit non. Marchera jamais ça. ça marchera jamais.
C'est comme ton truc, Roger, là, Internet. Ouais.
Donc ouais, en fait, ils ont c'est eux qui ont fabriqué le premier appareil numérique et la qualité n'était pas extraordinaire, donc ils se sont dit ça convaincra jamais les appareils, les possesseurs de photos. Et puis c'était un peu le débat, même débat sur le CD, sur le vinyle, où la photo argentique est quand même beaucoup plus chaleureuse que la photo numérique qui est pâle et froide. Donc voilà, donc tout ce discours-là, ils ont demandé même au photographe qui a dit non, je lâcherai jamais mon argentique. Alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore lâché leur argentique, ici présente. Mais faute est de constater que le numérique a pris le pas et Kodak c'est bientôt fini.
Mais c'est comme le vinyle, hein.
Oui, ça reviendra.
Ça reviendra.
Ça reviendra. Encore une autre petite pub, alors je sais pas d'où elle sort, c'est pour l'instantmatique de Kodak, une chanson chantée par les surfs. Je crois que c'est ça, c'est un groupe français. Hommage.
Oh,
chargeur super pratique, quelques secondes et clic instamatique. Des couleurs féeriques, au noir et blanc classique instamatique.
Oh,
quatre éclairs électriques pour un seul flash cubique instamatique. Des photos fantastiques, un appareil unique instamatique. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Merci Kodak.
Merci Kodak.
Mais déjà on avait senti que c'était fini parce qu'il y avait la Kodachrome, on en avait parlé d'ailleurs, qui s'avait arrêté il y a 2 ans, et le dernier laboratoire, parce que c'était une technique de développement particulière, avait fermé justement fin 2010. Mm. Et ça sentait déjà bien le sapin pour...
Ouais, et là c'est officiel. Bien, ensuite nous avons Serge Lorca. Mais qui est Serge Lorca? C'est un acteur et aussi un doubleur très célèbre, qui a une voxographie longue comme le bras, et qui est particulièrement connu pour avoir doublé ce personnage-là.
Totalement différent?
Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Oli, nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute.
Hop, il manque la fin. C'est Yoda dans Star Wars. Ça y est, vous le remettez.
Il
le...
parle à l'endroit, qu'est-ce qu'il...
Bah oui, c'est ça, j'ai pas trouvé de truc où il y a celui-là, mais... Il disait jamais te concentrer
sur toi. Difficile à voir. Toujours en mouvement et l'avenir.
Voilà, là c'est bon. Donc c'est lui qui doublait entre autres Yoda. Dans les Star Wars, puis il y en a plein d'autres. Je sais pas, bon, pas de temps de faire la liste, mais voilà. Donc Serge Lorca a pu. Et puis, il y a d'autres choses? Vous avez d'autres disparitions sous le bras ou on termine en musique?
On peut y aller.
Alors, j'ai trouvé un saxophoniste qui a disparu cette semaine, il s'appelle Jimmy Castor. Il fait de la funk avec du saxo. Il y a un chanteur de R&B qui est mort cette nuit, donc bon, pas eu le temps de s'en occuper. Ce sera pour la semaine prochaine. Mais il y en a tout. R&B, ça faisait longtemps, ça faisait au moins depuis la semaine dernière qu'il n'y en avait pas eu. Donc Jimmy Castor qui fait voilà, du funk avec du saxophone, je trouve que c'est assez bien résumé. C'est son deuxième album, c'est son gros tube, ça s'appelle Troglodyte Caveman. C'est mi-spoken word, mi-funk. Mais c'est plutôt sympathique. Voilà, 1972 d'ailleurs, je crois aussi, ça tombe bien. Allez, on écoute The Troglodyte Caveman sur Radio Campus Grenoble 90.8, depuis une émission Rétro Activitat. Juste après, on parlera de RPR Exploitation. Ça a l'air énorme.
Cavemen. Cave women. Neanderthal. Troglodytes. Let's take the average caveman at home. Listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. In the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas. I might come off. You'd have a piece of hair in your hand. She'd be swimming away from you. This one woman just laid there, wet and frightened. He said, move.
a big woman. Big woman. Her name was Bertha. Bertha Butt. She's one of the Butt sisters. He didn't care. He looked up, he said, suck it to me, 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 suck it to me. She looked down on him. She was ready to crush him, but she began to like him. She said, I'll suck it to you, daddy. He said, what? She said, I'll suck it to you, daddy. You know what he said? He started it all way back then. I ain't gonna lie to you. When she said, I'll suck it to you, daddy. He said, right on.
Jimmy Castor Butch.
C'est vachement bien.
Ouais, c'est plutôt un joli morceau.
Ouais, carrément.
Bien. Et bien, les filles nous ont abandonné. Mais tant pis. On va quand même parler de RPR Exploitation.
Carrément. En fait, c'est à l'initiative de deux sites internet. Alors, mes camarades très estimés de nanarland.com, que je salue et que j'embrasse, et qui se sont fédérés avec c'est une page Facebook, je crois pas qu'il y ait de site dédié, enfin si peut-être, qui s'appelle Humour de droite.
Ah oui, c'était une page, voilà. C'est la page à Laurent Gérard, c'est ça la page hommage?
De quoi?
C'est une page hommage à Laurent Gérard, c'est ça?
Un peu. Voilà, je vous laisse découvrir sur Facebook.
On va voir ça.
Et donc, en fait, Nanarland et Humour de droite se sont mis en cheville avec un cinéma parisien qui s'appelle Panique Cinéma. Alors, si vous voulez y aller, je sais plus où c'est. C'est à Paris, mais Paris, c'est grand. Alors, attends. Je cherche. Voilà, c'est dans le 4e, 20 rue du Temple. Enfin, cinéma, le nouveau Latina, et c'est Panique Cinéma, c'est un label. Voilà. Et donc, ils projettent ce film incroyable, La Nuit du Risque, en date de 1986, qui a la particularité d'être le seul film français jamais produit par un parti politique. Le parti politique étant le RPR, qui dans la France de 1986, c'est donc un parti de résistance par rapport à la chienlit bolchevique qui contamine toutes les strates de la société française.
Défilé sur les Champs-Élysées, les chars rouges.
Voilà, les chars rouges sur les Champs-Élysées, exactement. Et qui est réalisé par Sergio Gobbi. Alors Sergio Gobbi, c'est un grand margoulin de la réalisation, cinéaste d'origine italienne, comme son nom l'indique, qui a réalisé quelques nanars dans son pays d'origine, qui a bougé en France, qui a fait quelques nanars en France, dont l'immortel L'Arbalète, avec Daniel Auteuil, dans un de ses premiers rôles sérieux. Enfin, quand je dis sérieux, je relativise. Daniel Auteuil dans L'Arbalète joue en gros un espèce de vigilante, quelqu'un qui va aller tataner du gangster et de l'homosexuel dans les rues.
D'accord.
Voilà, je vous laisse la surprise de la découverte de ce film, dont la meilleure réplique est « Je vais te déchirer le trou de balle, comme ça t'auras l'eau courante ». Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la poésie de Sergio Gobbi. Et Sergio Gobbi, en fait, en bon malin, si tu veux, a épousé dans le mi-temps des années 80 Corinne Bouygues. Qui fait donc partie de la famille Bouygues. Et de ce fait, Sergio Gobbi s'est assuré un avenir dans son univers de prédilection, dans le sens où il était amené à réaliser des épisodes de Commissaire Moulin, ce genre de choses. Voilà. Il devait récemment adapter un roman de Patrick Poivre d'Arvor, mais les relations entre Patrick Poivre d'Arvor et la famille Bouygues sont très 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 orageuses, donc le projet ne s'est pas fait.
Donc, du coup, il va adapter un livre de Laurence Ferrari.
Ou d'Harry Roselmack. On ne sait pas. Toujours est-il que ça nous amène à La Nuit du Risque. Donc, film produit en 1986 et qui raconte les démêlés de Stéphane, interprété par Stéphane Ferrara. Voilà, les personnages principaux gardent leur vrai prénom par souci de vérisme, vraisemblablement. Et donc Stéphane, c'est un boxeur qui évolue dans des strates semi-professionnelles et qui en fait ne supporte plus la corruption de son métier. Voilà, parce que la boxe s'est trop corrompue, encore un coup des socialistes sûrement, et du coup Stéphane décide de devenir garde du corps de Robert-André Vivien. Robert-André Vivien, député RPR de l'époque, en fait, dont la postérité n'a retenu finalement qu'un lapsus absolument formidable à l'Assemblée nationale. C'est lui qui avait sorti à je ne sais plus qui, mais monsieur, il faut durcir votre sexe au lieu de durcir votre texte. Voilà. Et voilà, c'est pour la légende quand même. C'est et donc incroyable. Stéphane devient garde du corps de Robert-André Vivien, il l'accompagne dans des meetings RPR, vivement la France, c'est le slogan qui est, ouais, qui est scandé partout. Et donc dans le film, on a des apparitions à peu près récurrentes, en gros, de Charles Pasqua, Michel Alliomari, Jacques Toubon, surtout, qu'en fait, qui essaie de s'incruster dans tous les plans. À chaque fois qu'il y a un truc de meeting, tu vois Jacques Toubon qui fait...
Qui bouscule tout le monde.
Voilà, et Jacques Chirac, dont on voit des extraits de discours sur des durées d'une à deux minutes avec Stéphane Ferrara, donc il observe en disant putain c'est bien ce qu'il dit quand même. Et l'histoire ne s'arrête pas là, dans le sens où Stéphane a un meilleur pote, Pierre-Marie, et que tous les deux, voilà, ils se baladent la nuit dans les rues en ruminant un peu sur sa fin de carrière de boxeur. Et un soir, en fait, ils tombent sur des salopards qui taguent des affiches de Robert-André Vivien. Ah. Alors ni une ni deux, ils font ouais, qu'est-ce que vous faites machin, il fait, ah. Et donc ils se battent avec les tagueurs socialistes. Et dans la bagarre, en fait, de façon complètement improbable, Pierre-Marie décède.
Oh.
Voilà, mauvaise chute, cascade floue, voilà. Donc Stéphane a super les bollocks. Et il finit par retrouver un de ces salopards de taggeurs socialistes qui ça fait, là c'est pas de l'interprétation, hein, il se revendique comme tel. Et il le course dans le métro et sans faire exprès, en fait, l'assassin de son meilleur ami tombe sur la voie du métro et se fait écraser. Et donc Stéphane est recherché pour meurtre. Mais pour proclamer son innocence, en fait, il va se réfugier chez Christiane, qui est une présentatrice télé solide comme un roc, en fait, qui a mis Fabius mal à l'aise lors d'un débat. Voilà, elle est décrite vraiment comme une killeuse, en fait, et comme une des dernières résistantes. C'est un peu la Jean Moulin, si tu veux, de la France socialiste pour le RPR. Et donc Christiane va accueillir Stéphane chez elle et essayer de faire surgir les vérités de ce marasme de contre-information, de désinvérité, tout ça. J'ai dit des mots qui n'existent pas, mais c'est pas grave. Alors le film est tourné comme vraiment un téléfilm, tout ce qu'il y a de plus strict, tout ce qu'il y a de plus vraiment patelin, télévisuel, tout ce que vous voulez, mais en fait la substance du discours fait que le film est hallucinant. C'est, voilà, on voit vraiment, j'exagère pas, un film de résistance ourdi par le RPR dans la France qui a vécu 5 ans de socialisme, quoi, avec toujours des petites références à ce régime qui tanne nos âmes et qui fait du mal à nos femmes et nos enfants, tu vois.
Ouais.
Et Christiane là-dedans est voilà, cette espèce de phare dans la nuit vers lequel on se repère pour sortir de ce marasme idéologique. Christiane est interprétée par Christiane Jean, alors une actrice très 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 versatile qui a eu une carrière assez étrange. Elle a commencé chez Zulawski dans l'Amour Braque. Mmh. Et malheureusement, la postérité retiendra surtout sa participation à la sitcom Les filles d'à côté, où elle faisait partie des trois filles.
C'est moche.
Et là-dedans, en fait, elle arbore une espèce de choucroute et des vêtements de choucroute voilà, sur la tête, les cheveux, quoi.
Oui.
À faire rougir Margaret Thatcher et des vêtements qui je pense, ont provoqué des crises d'épilepsie chez les spectateurs les plus sensibles. Donc le film est totalement incroyable, c'est un pamphlet idéologique qui est produit par un parti politique, ce qui est très très très, enfin ce qui est inédit en France. Mmh. Donc rien que pour ça, ça a valeur d'édification, et puis le film est tellement mal joué, mal réalisé, avec un scénario complètement absurde, que c'est totalement jubilatoire. Alors le film est encore plus dur à trouver maintenant que Mega Upload est en sursis, mais il passe régulièrement en fait sur des chaînes de cinéma qu'on peut trouver sur Afribo ou sur d'autres réseaux, alors Action Polar FX. Le film passe régulièrement là-dessus et j'ai pu le voir deux, trois fois dans l'espace d'un an. J'étais ravi à chaque fois de le revoir. Ah, la nuit du risque, génial. Et aussi préciser que il n'y a rien de plus délicat dans un film que les acteurs enfants, si tu veux.
Ah oui. Oui, les animaux, les enfants.
C'est super galère à diriger, ça a des horaires vraiment particuliers. Et surtout, un gamin... qui joue mal dans un film, il n'y a rien de plus insupportable. Il y a les mauvais acteurs, tu fais bon, soit, machin. Les gamins qui jouent mal, C'est une horreur. Et là-dedans, il y a l'antéchrist, en fait. Il y a le fils de Christiane, donc, qui est un gamin insupportable. Un espèce de petit gamin roux avec des taches de rousseur, qui a toujours une coiffe d'indien, en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est son truc. Et qui parle avec une voix fluette, une voix de crécelle fluette, qui est intolérable. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, le gamin chante le générique de fin. Avec la participation de Stéphane qui fait une espèce de slam avant l'heure. Et je vous propose d'écouter le générique de fin de La Nuit du Risque qui traduit bien en fait tous les troubles esthétiques que le film peut engendrer. Je vous préviens, c'est très 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 dur, ça dure 2 minutes.
D'accord.
Mais on va s'écouter ça en entier parce qu'il le faut. Et la chute dans tous les sens du terme de la chanson est incroyable. Voilà.
Très bien. Donc ça fait office de musique alors.
Absolument.
Bah parfait.
si ça vous va, ça dure 2 minutes.
Oui, c'est bien, ouais. c'est énorme. La Nuit du Risque.
Alors, est-ce que ça a marché ?
Ah bah non. Ah bah non. On l'a refait, moi je suis fait.
Je crois que c'est après ça.
C'est parti. Allez, maintenant !
Non. Donc. Okay.
Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite ?
Il faisait si beau cette nuit, l'air était doux, on sentait déjà le printemps. Paris dormait tranquille, parce que tout est heureux.
Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite? Tu es fatigué, viens à la maison, viens. Alors dis monsieur, qui t'a fait de la peine? Car tes yeux sont...
J'étais heureux parce que j'étais libre. J'avais l'amitié pour certitude. La gaieté pour compagnon. Soudain, tout a basculé. On a tué mon ami. On m'a pris mon passé.
Dis monsieur, pourquoi tu cours si vite? Dis Stéphane, dis-moi, tu l'aimais Pierre-Marie. Il était...
écarlate qui me donnait des allures de Père Noël. C'était la marche vers le ring. La fumée, les drapeaux. Pierre-Marie qui me soufflait, tu vas gagner.
Mais dis-moi, champion, tu leur faisais si peur. Tu es si gentil. Dis-moi pourquoi tu pleures.
Parce que je vais mourir.
Ah ouais, ça finit ça.
C'est abominable.
Aïe.
Punaise.
Voilà, bon, j'ai spoil. Du coup, ça spoil la fin du film, mais.
Ouais, mais c'est pas. On va pas le regarder pour ça, quoi.
La fin du film, en gros, Stéphane est acculé par les forces de police à la solde du gouvernement bolchevique.
T'as la bonne yenne,
va sur le toit de la maison de Christiane. Christiane arrive en disant non, mais trop tard, et Stéphane saute dans le vide. Voilà,
voilà, c'est horrible.
Pays de l'injustice.
L'année du risque, bientôt d'actualité, on espère.
Voilà.
Bien. Bon.
Ça va?
Ouais, je peux m'en remettre.
Tu as vomi dans ta bouche et tu as ravalé.
C'est ça, voilà. Quelqu'un veut. C'est l'heure du Cholette Show qui vient nous parler des citrouilles écrasées.
Oui, absolument. Je vais vous parler des citrouilles écrasées. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, c'est un petit peu morose en ce début d'année. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fabuleux à se mettre sous la dent. Alors, comme souvent, 20 ans après, les labels et les maisons de disques ont la bonne idée de ressortir des versions remasterisées des albums.
Et puis les gens qui écoutaient la musique à cette époque-là, maintenant, sont pleins de pognon.
Et ils peuvent acheter des versions avec des packs de luxe collector, agrémentés de photos, de disques en plus, de trucs super chers.
Plutôt que de vendre des MP3 à des merdeux.
Voilà. Et si on vendait des trucs super chers à des vieux cons? Dont je fais. Alors, j'ai toujours pas de pouvoir d'achat, mais par contre, j'ai vieilli. Voilà. Donc, c'était avec un peu de bonheur que sur Mega Upload, j'ai pu récupérer donc cette version, ces versions de Smashing Pumpkins. Ils rééditent pour l'instant les deux premiers albums. Mais il faut savoir que par la suite, et au courant de cette année, ils vont notamment rééditer le fameux Melancholy and the Infinite Sadness, qui a été quand même le double album de rock le plus vendu des années 90.
Ouais, ce qui est pareil.
À l'époque où le disque se portait bien. Donc c'est quand même une sacrée référence. Donc pour revenir un petit peu sur l'historique des Smashing Pumpkins, pour les jeunes qui nous écoutent, donc les Smashing Pumpkins, qui était un groupe, un des plus grands groupes de rock alternatif américain, ça s'est surtout vendu aux États-Unis plus que dans le monde dans les années 90. Ils sont nés en 1988 à Chicago, donc historiquement, puisque ça a évolué beaucoup par la suite. Il était composé de Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain et Darcy Wretzky. Le groupe s'est séparé en 2000 avant de se reformer en 2006, mais ça n'a pas connu le succès que ça avait connu à l'époque. Donc ce groupe a été formé de rencontres à l'école et de beuveries de comptoir, comme bien souvent. Et c'était un titre, le titre est en fait les Smashing Pumpkins, c'est le titre emprunté à une phrase déclamée par le batteur de Kiss à propos de Joe Strummer. Des Clash, donc Joe Strummer is drunk and he's smashing pumpkins, voilà. Donc, c'est ça qu'aurait entendu Billy Corgan à l'époque et qui lui aurait donné l'idée d'appeler son groupe comme ça. Donc l'histoire chaotique, je vous passerai les détails, mais en gros et comme toujours, c'est fait de membres dépendants à l'héroïne, de guitaristes qui sortent avec la bassiste, de leaders tyranniques en la personne de Billy Corgan qui en vient à jouer tous les instruments sur ses albums, notamment en 91 et 91 pour les deux albums dont on parle, donc Gish et Siamese Dream qui étaient sortis en 91 et 93. C'est les premiers et deuxième album du groupe. Donc ces deux albums sont remasterisés en 2012 pour leur ressortie. Ils sont agrémentés de bonus. Concernant la musique des Smashing Pumpkins, alors les influences avouées de Billy Corgan, donc c'est du rock alternatif, mais ça va de Black Sabbath à My Bloody Valentine. Donc il y a un côté shoegaze avec quand même beaucoup de rythmes extrêmement heavy et des mélodies extrêmement mélancoliques. Alors ces deux albums ont tous les deux été produits par Corgan et Butch Vig. Alors Butch Vig, on en a déjà parlé en termes de réédition, puisque tout simplement c'est celui qui avait coproduit Nevermind à l'époque. Il avait réussi, et c'est ce qui lui avait été reproché sur cet album de Nirvana, de faire ressortir un petit peu trop l'essence pop du disque et l'essence pop qu'il trouvait en Kurt Cobain. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour cet album, et c'est notamment pour Siamese Dream, le titre qu'on va écouter, justement une version bonus de Today. On va se rendre compte que la version définitive qui avait été choisie pour l'album final est beaucoup plus pop que ce qui avait été composé par Billy Corgan à la base. Donc Butch Vig, c'est un dénominateur commun entre les Smashing Pumpkins et Nirvana, mais en fait c'est deux groupes qui ont été extrêmement rivaux à l'époque, hormis le fait que la presse a trouvé en Billy Corgan une sorte de descendant de Kurt Cobain à sa mort en 93, ils ont vraiment une histoire qui est liée. Tout simplement parce que Courtney Love, déjà à l'époque, sortait avec Billy Corgan avant de sortir avec Kurt Cobain, par exemple. Et elle avait notamment déclamé une phrase à la fin d'un de ses concerts à propos de la chanson Violet, celle que j'ai tatouée dans le dos, entre parenthèses. I wrote this song about a jerk, I exed him and he's losing his hairs. Donc j'ai écrit cette chanson à propos d'un crétin, je lui ai jeté un sort et il perd ses cheveux. Il ne lui en a pas voulu, figurez-vous, puisque tout simplement Courtney Love a fait sortir un album solo qui était vraiment pas terrible, Nobody's Daughter, l'année dernière, et il était à la composition de 5 de ses chansons, et ils ont donné des concerts de charité ensemble pour des causes gays et lesbiennes récemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi Nirvana à part la meuf et Smashing Pumpkins? Eh bien, tout simplement, Gish, le premier album des Smashing Pumpkins en 91, est sorti le même jour que Nevermind. Donc, on peut parler un peu d'album maudit, puisqu'il a été complètement oublié par la presse. Alors après, il a retrouvé gain de cause quelques années plus tard, quand justement le grunge était à son apogée. Mais à la base, ça leur avait vraiment porter préjudice. Alors qu'est-ce qu'on va trouver donc sur cette je me suis un peu plus penchée sur Siamese Dream que je connaissais mieux, donc j'ai pu plus en apprécier les bonus. Donc il y a une superbe version live dans les bonus donc de Siamese Dream, le deuxième CD de Never Let Me Down Again. C'est une cover de Depeche Mode. Billy Corgan est fan de Depeche Mode depuis la base et c'est vraiment une chanson qui est incroyable. Il y a une version instrumentale de Soma qui est complètement bouclée et entêtante, qui est magnifique, qui dure 6 minutes 50. Il y a un mix d'Disarm, des tubes de Siamese Dream avec encore plus de violoncelle qu'à la base et qui augmente encore l'emphase de cette chanson qui reste quand même un sacré méga power tube. Mais on va écouter Today, vous souvenez des petites notes, voilà. Et donc on va écouter juste ça après. Et juste une petite anecdote pour finir. Tu nous as mis la pochette là dans le studio, ouais. Des deux petites filles ailées qui ornent donc la pochette de Siamese Dream des Smashing Pumpkins. Il faut savoir que Billy Corgan en 2007, alors donc il était plein de nostalgie quand il a reformé son groupe les Smashing Pumpkins, mais par contre tout le monde s'était barré parce qu'il s'était engueulé avec tout le monde à peu près. Et donc il avait embauché une nouvelle bassiste en la personne de Nicole Chamberlain. Et il cherchait en fait absolument quelles étaient ces deux petites filles de l'époque qui avaient bien grandi, puisque bon, c'était il y a un moment. Et en fait, Nicole Chamberlain, la nouvelle bassiste qu'il avait engagée, lui a avoué qu'elle est l'une des deux petites filles sur la pochette.
Incroyable.
Donc là, on peut voir un fabuleux coup de destin, le mec double. Enfin, c'est voilà. Donc, c'est l'anecdote. Donc Nicole Chamberlain, la nouvelle bassiste des Smashing Pumpkins, était déjà là à l'époque puisqu'elle était photographiée sur la pochette de Siamese Dream. Voilà, donc on va écouter Today avec une version qui est complètement grungesque, qui est assez incroyable, avec un solo honteux, une voix décadente, parfois faute, vraiment une ambiance fin du monde, mais c'est donc c'était une démo de l'époque.
Ouais.
Présente sur la réédition de Siamese Dream des Smashing Pumpkins, qui était sortie chez Hot Records en 1993.
Très bien.
Voilà.
Moi, Siamese Dream, un titre, un album avec un titre qui s'appelle Mayonnaise, je ne peux que aimer. Allez, Today.
De Today. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir les choses en amont, la jeunesse des plus gros tubes comme ça.
Ouais.
Je pense pas que ça aurait marché si jamais ils étaient allés dans ce sens-là, mais Butch Vig avait eu ce fabuleux instinct. Et c'était les enregistrements des albums des Smashing Pumpkins, c'était toujours mais complètement atroce, quoi. C'était 70 prises, c'était la totale catastrophe.
D'accord.
Beaucoup de travail.
Moi, ça m'a donné envie, après avoir ressorti les albums de Pearl Jam la semaine dernière, ça me donne envie de ressortir mes albums de Smashing Pumpkins. Faut passer la voix, quoi. Une fois qu'on a passé la barrière de la voix.
Ouais, cette espèce de voix du nez, là.
Ouais. Enfin, moi. Donc, voilà. Donc, deux excellents albums, Guiche et Siamese Dream, réédités pour notre plus grand plaisir. Bien. C'est l'heure de parler de la bibliothèque de Claire qui a lu un livre ce matin.
Oui.
Enfin, ce matin.
Oui. Enfin, ouais, non, je ne l'ai pas lu ce matin, mais...
dans la voiture.
J'ai lu dans la semaine, vite fait. Donc voilà, alors cette semaine je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Vous êtes né à la bonne époque et qui a été écrit par Mathieu Young. Alors Mathieu Young, donc c'est un auteur français contemporain et qui est l'auteur entre autres de La vague à l'âme, écrit en 2007, et Principe de précaution en 2009. Voilà, Vous êtes né à la bonne époque, c'est son troisième roman qui a été publié aux éditions Stock en août 2011, donc il faisait partie de la rentrée littéraire. Et il fait en gros 224 pages, ouais, exactement. C'est un livre qui se lit assez facilement, ça parle d'une histoire d'amour en fait. La narratrice c'est Nathalie, elle a 42 ans, elle vit à Paris, elle est ophtalmo dans un superbe appartement, et elle a très très bien réussi sa carrière. Mais elle va traverser une espèce de crise existentielle. Donc entre sa fille qui est devenue adulte et qui est partie s'installer aux États-Unis et son ami qui vient de la quitter parce qu'il l'a trompée, donc tout va bien. Et elle a une fixation, Nathalie, donc c'est qu'elle veut absolument faire un deuxième enfant avant sa ménopause. Elle va alors rencontrer un jeune peintre de 22 ans dont elle va tomber complètement amoureuse. Et ça va remettre beaucoup de choses en question, surtout... elle-même, en fait, sa manière de se percevoir, de vivre sa génération, et en même temps de se reconnaître à travers cette romance. Donc voilà. Ce livre, comme je le disais, il se lit ici très facilement avec beaucoup de dialogues. Il y a aussi pas mal de paragraphes sur les cogitations de la narratrice, avec son angoisse de vieillir, de ne pas avoir un autre enfant, enfin voilà. C'est un personnage qui socialement a réussi, mais bon, dont le sentiment, enfin, on a l'impression qu'elle ne trouve jamais sa place en fait dans la société, qu'elle est toujours vraiment en décalage avec et puis ce qu'elle est, donc voilà. Il y a cette passion qui arrive avec ce jeune homme qui va la peser dans le moment, parce qu'elle ne va plus penser à toutes ses peurs, mais en même temps ça la renvoie aussi à ce qu'elle voudrait être, donc quelque part libre, jeune, insouciante, tout ça. Voilà, une espèce d'artiste, de muse artistique. Donc voilà, elle en même temps, donc elle vit cette relation, mais elle est aussi consciente d'être dans une impasse. Voilà, jusqu'à la rupture, qui va lui permettre en fait de comprendre un petit peu ce qui la relie si intimement à ce jeune homme. Donc voilà, bon, la chute est très abrupte. C'est peut-être l'originalité du livre, parce qu'en soi l'histoire, enfin je l'ai dit, hein, c'était pas non plus un roman extraordinaire. Moi, ce qui m'a peut-être un petit peu interpellée simplement, c'est que l'auteur c'est un homme et la narratrice, enfin on a vraiment l'impression en fait qu'il rentre à fond dans la psychologie féminine. Enfin voilà, j'étais un petit peu surprise. Mais voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire en fait. Vous êtes né à la bonne époque, Mathieu Young, voilà, rentrée D'accord. littéraire.
Il y a des commentaires qui disent que c'est mal écrit, tout ça, est-ce que...
Non, moi ça va, j'ai trouvé plutôt... ça aurait pu être un roman d'été, quoi. Voilà, c'est pas... Non, mais l'écriture, elle m'a pas ralenti, D'accord, voilà, ça... ni gêné, ouais.
D'accord. Donc, tu peux redire juste le titre.
Vous êtes né à la bonne époque, avec une grosse banderole, il y a marqué « Vous êtes de la chance, vous avez de la chance ». Donc voilà,
D'accord. Et donc, l'auteur, c'est
Mathieu Young.
Mathieu Young, et c'est sorti chez...
Stock.
Voilà, donc chez Stock. Parfait. Eh bien, écoutons un petit peu de musique, à présent. Je propose un truc qui s'appelle Dempster Highway, c'est ça, sur un EP qui s'appelle We Sail. Pouf pouf, sorti chez Kutu Folk Records.
Ah,
faut que je les appelle d'ailleurs pour qu'ils nous envoient des disques. J'ai fait mes courses en direct. Lost Nation de Mr. Highways, un petit peu de folk. Allez, soyons dingues. Folk pop.
Barking. These ones, do you see them? They are raging, they are barking. They think they deserve some other kind of living, and among them are dreamers. You just wait and see. They all come from Lost Nation, just like you and me. These ones, they are living tiny houses, crowded cities. These ones, they are living tiny houses, lonesome cities. Their streets just the biggest sewer I've ever seen. And the sky on Lost Nation, and they knew it is green. Far, far from Lost Nation, that's where I wanna be. No borders, it's surrounded by the sea. There's nowhere you can go out of here, you know. There's no way you can be. So I pray for a foreign breeze to blow all of my. When the wind blows on Lost Nation, I feel that I'm. So I pray for a foreign breeze to blow all of my tears. When the wind blows on Lost Nation, I feel that I'm.
Mr. Highway, Lost Nation sur un EP sorti chez Kutu Folk Records, un excellent label clermontois.
Et oui, le pays.
À noter qu'il y a le festival international du court-métrage qui aura bientôt lieu à Clermont-Ferrand dans quelques semaines. Et je crois que nous aurons un envoyé spécial là-bas, si je crois bien. Il y aura des gens qui nous parleront de tout ça. Il y a Isaac qui va, il me semble. Voilà, qui va faire du mix et tout ça. Ça va être bien. Pouf pouf, il est 8h55, donc on va se dépêcher de parler du film qui s'appelle Affreux, sale et méchant, qui a lieu donc au CCC. C'est la chronique, le film.
Le film du CCC.
Le film du CCC, on vous rappelle qu'il y a des places à gagner en écrivant à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org. Écrivez nombreux, c'est Cholette qui s'occupe de faire gagner les places. Si vous voulez écrire à Cholette.
La main innocente, c'est Mimi.
C'est ça. Donc, ça ferme le cycle italien commencé avant le festival des Modifilms. Quelqu'un l'a vu ? Apparemment.
Affreux, c'est méchant ?
Oui.
Ouais, carrément.
Ouais. Donc, très bien. Donc, c'est un film.
En plus, c'est un film qui a été remasterisé, où il y a des copies neuves qui sont magnifiques.
Ah oui.
Même si c'est un film assez crasseux.
Magnifique. Ils ont enlevé la saleté.
Non, quoi. Mais sur l'image, le son et tout, c'est parfait. T'as l'impression d'être en 76, quoi.
D'accord. Donc film qui date de 76 effectivement, qui nous narre en fait l'histoire d'une famille qui habite dans des sortes de bidonvilles qui sont à proximité de Rome en fait. Ils sont sur une colline et on voit la basilique Saint-Pierre hein, depuis la colline. En fait apparemment c'était tous les ouvriers qui étaient là, qui étaient chargés de construire le nouveau quartier de la ville et qui habitaient ici dans une espèce de taudis absolument infâme. Et donc on voit cette famille qui est vraiment affreuse, sale et méchante. Ça résume assez bien le propos. Donc l'humanité en fait avait publié un article en 76 qui parlait de ce film-là et qui disait en fait la pauvreté, il y a en gros on a habituellement deux façons de l'aborder. Soit une façon très très de droite et très chrétienne on va dire, qui est faut leur faire l'aumône à ces pauvres gens, faut leur donner des sous et à manger, faut les aider quoi. Et une vision un petit peu plus gauchiste qui est il faut les pousser à se révolter pour qu'ils sortent de leurs conditions sociales et qu'ils remettent tout ça en cause. Et le film propose une vision complètement différente qui n'a rien à voir ni l'une avec l'autre, il propose juste une vision humaine de ces gens-là qui sont donc qui sont roublards, qui sont méchants, qui sont qui ont des défauts complètement humains, les mêmes défauts que les riches en fait. Donc il y a ce père de famille qui est joué par un acteur dont je n'ai
Nino Manfredi.
Voilà, qui est un grand acteur du cinéma italien. Et qui est entouré par contre de gens qui ont été pris dans les taudis par le réalisateur. C'est-à-dire que c'est des comédiens non professionnels. Soit ils leur avaient esquinté la tronche avant, parce qu'ils ont vraiment été pris pour leur gueule hein, tous.
Ouais, mais c'est un film qui est vraiment crucial dans l'histoire du cinéma italien de ces années-là, parce qu'il fait en fait le pont entre le néo-réalisme et la comédie satirique italienne, en prenant les éléments qui faisaient le plus au réalisateur Ettore Scola dans chaque genre, pour faire un film qui à l'époque a semblé inédit, mais qui en fait voilà venait pas de nulle part non plus. Mais qui a vraiment trouvé un ton justement sur cet équilibre vraiment périlleux de présenter justement cette classe sociale défavorisée sous un jour pas forcément glorieux quoi, mais avec beaucoup de crudité, de réalisme, c'est un film qui reste jouissif quoi.
Il voulait faire un documentaire en fait au début.
Ouais voilà. Ouais.
Et donc il en a fait quand même une fiction. Mais ouais, c'est quand même assez dur à regarder quand même de. Ce père qui. Enfin ce père qui a une famille autour de lui, puis
va essayer
de.
L'acteur excellent quoi. À partir de là, c'est.
On a envie de l'étrangler tout au long du film et donc voilà. Non, un film à voir, c'est peut-être dur à voir, mais à voir quand même quoi.
Non, une fois que t'es lancé, voilà. ça se regarde sans problème, quoi. C'est un de mes Ettore Scola préférés juste avant. Juste après, le film qu'il a fait l'année suivante, Une journée bien particulière avec Marcello Mastroianni, qui essaie de fuir les fascistes.
D'accord.
Avec cette réplique fameuse, mais c'était pas le locataire du 6e qui est antifasciste, c'est les fascistes qui sont anti-locataires du 6e, monsieur.
Ah, c'est d'accord, je viens de découvrir voilà. De là d'où naît la citation de Desproges.
Absolument.
D'accord. Eh bien, très bien. Donc voilà, Affreux, sale et méchant. Si, enfin, c'est bon, on a fait le tour. Bon, Affreux, sale et méchant au CCC, donc mercredi prochain, quand ils auront nettoyé après les films, les maudits films, ils vont ranger la salle.
Le vomi, le sang, tout ça.
Donc les maudits films, c'est jusqu'à ce samedi soir. Il y a encore deux soirées. Et puis donc le cycle italien qui se clôture, et puis après on partira sur l'utopie, le cycle d'après. Mm. Voilà. Bon, ben, du coup, c'est l'heure de se dire au revoir. Hein. Il n'y a plus grand chose, je sais même pas si on n'a pas le temps de se passer de musique, tout ça.
Et ben la semaine prochaine.
Et oui. Ah tiens, juste, je vous parlais pas de l'émission de Tout Fortiche, on va sur le planning. Ils ont parlé de Smashing Pumpkins mardi dernier.
C'est vrai.
Ouais. Ils parlaient d'Ava Adore en fait, parce qu'ils expliquaient que le batteur en fait était parti en prison, donc du coup il avait pas eu le courage, il avait pas envie de remplacer Billy Corgan, du coup il avait pris une boîte à rythme à la place.
Mais il avait dit que de toute façon après Siamese Dream, non peut-être après Mélancolique, le rock était mort et qu'il allait partir sur un version beaucoup plus électronique. Ouais. Les boîtes à rythme c'était très bien. Et avec son batteur, Jimmy Chamberlain qui était le plus héroïnomane de tous. Ouais. Ça l'a pète sous lui.
C'est possible.
Voilà.
Très bien.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
7h30, 9h, rétroactivité, très compliqué, Grenoble, 90.
8.
festivaldesmaudisfilms.com.
Joy, it's your song. There ain't much that I can do to let you know joy, it's your song. For a special day you need to celebrate. Joy, it's your song. And I'm sure that one day you will sing along. Yes, I'm sure that one day you will sing along. Joy, it's your song. There ain't much that I can do to let you know. Joy, I see you gone. But my promise keeps on living through this song. Yes, my promise keeps on living through this song.